Bonjour à tous, je m'appelle Iroise et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode des Engagés au sein du Centre socioculturel de Chemilly. Je suis accompagnée de Romane, Satine, Manon et Coralie et nous sommes toutes étudiantes en BUT carrière sociale à Cholet. Relations humaines, voici la thématique que nous allons aborder aujourd'hui avec Marie-Odile. Marie-Odile, comment allez-vous ?
Eh bien je crois que je suis aussi stressée que vous, c'est une première et voilà, donc on apprend.
Bon, on va faire ça tout ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de votre parcours professionnel ?
Oui. Alors, je vais vous énumérer les différents postes que j'ai occupés. Puis après, je vous dirai un petit peu pourquoi ça a du sens, toute cette succession. Donc, mon premier métier, c'était infirmière. Déjà dans différents lieux. Commencé à l'hôpital et puis après à domicile. Bon. Ensuite, j'étais professeur des écoles. Puis j'ai dirigé des établissements scolaires. Ensuite, je suis partie dans une compagnie de théâtre pour être administratrice d'une compagnie de théâtre. Et ensuite, j'ai lancé mon activité en porteur de projet, animation des groupes, développement personnel. Ouais, je peux dire ça comme ça. Ensuite, j'ai rencontré un sophrologue et on a monté des projets autour de l'intégration. On était en binôme. Moi, je travaillais beaucoup l'ancrage, notamment dans le corps, dans l'expression. Enfin, l'expression plutôt. Lui travaillait l'ancrage. Et puis derrière, moi, j'intervenais plutôt par rapport à l'expression. Pour des gens en insertion, en modification. Oui. Changement professionnel, aussi avec des détenus, des publics très variés.
Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a toujours un contact avec l'humain. C'est ce que vous avez aimé faire toute votre vie.
Complètement. Qu'est-ce qu'il y a eu après ? Après, je suis rentrée dans le médico-social. D'abord pour faire un remplacement d'infirmière, parce que j'avais besoin d'un petit peu de sous. Parce que mon activité professionnelle, il faut un petit peu de temps pour la développer, même si j'avais de plus en plus de groupes, et notamment de groupes en module d'intégration, de groupes d'étudiants en module d'intégration. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'on avait 4 enfants, dont 2 qui devenaient étudiants, et il fallait payer les chambres. Voilà. Donc je suis retournée chercher un emploi, et en fait, quand je suis arrivée prendre un poste d'infirmière, on m'a proposé un poste de chef de service. Voilà, donc j'ai pris le poste de chef de service, puis après j'ai eu un poste un an après d'adjointe de direction. Et j'ai eu la possibilité de faire une formation de directeur d'établissements médico-sociaux, ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai dirigé des établissements médico-sociaux. Donc là j'ai managé des équipes de tout style. Et puis ensuite j'ai eu une pause de quelques années. D'abord parce que j'ai accompagné mon papa en fin de vie. Et ça, c'était important. Ça fait aussi partie des relations humaines pour moi. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé par là-dessus. Et là, c'est là où j'ai commencé à proposer mes services au centre social pour accompagner des jeunes et travailler un peu une meilleure connaissance de soi-même avec des outils comme la communication non violente, par exemple, que j'ai acquis et développé. L'accompagnement des équipes sur les projets. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Et puis voilà, petit à petit, donc là, je me suis installée en auto-entrepreneur. Et là, j'ai vraiment, avec une collègue, développé la formation de la communication non violente, l'accompagnement donc d'équipes, de personnes. Et là encore, est venu à moi tout ce qui est des accompagnements individuels, des accompagnements de couple, de petits bouts de famille qui n'arrivaient plus à se parler. Etc. Donc j'ai continué à développer ça. Et puis j'ai aussi développé tout ce qui était la prévention des conflits et la gestion des conflits, notamment dans les groupes et dans les familles, avec les cercles restauratifs, qui est une approche restaurative du conflit. Donc j'ai facilité des cercles restauratifs. Voilà, j'ai terminé ma carrière avec tout ça. Ça fait à peine un an que j'ai terminé ma carrière et pour pouvoir j'ai envie de dire, vivre maintenant les relations humaines, mais sans les transmettre, sans accompagner, sans porter les gens, parce que j'avais aussi besoin de faire une pause par rapport à tout ça et de vivre pleinement avec ma famille et des projets aussi plus personnels.
Tout à l'heure, vous avez vu que c'était venu à vous.
Oui.
Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que vous avez appris avec le temps, les relations humaines et travailler avec les personnes, ou ça a été quelque chose qui a toujours été en vous ?
Alors, je crois que j'ai toujours eu ça, puisque j'ai souvenir d'une tante, j'étais jeune adolescente, et d'une tante qui me disait « Mais toi, tu sais écouter. » Donc, je crois que j'ai toujours eu ça, mais j'ai aussi appris ça parce que, enfant, je voyais des adultes agir, notamment par des choses qui peuvent être violentes, et je ne comprenais pas comment on pouvait aimer des enfants et avoir des actions qui soient violentes ou qui soient des privations de liberté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée, enfant. Et je crois que j'ai eu à cœur de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans l'être humain pour être amené à poser des actes qui ne sont pas en accord avec ce qu'on veut transmettre et ce qu'on veut vivre. Et je me suis formée beaucoup au fil de la vie pour aller chercher comment fonctionne l'être humain. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de formations donc sur les relations humaines, sur donc la communication non violente, mais aussi la gestion des conflits par différentes approches. Et ouais, je crois que c'est l'ancrage, il est là. J'ai une sensibilité, effectivement, à l'écoute, à la compassion. Mais après, je l'ai développée. Et cette soif de comprendre, elle m'a permis après de me dire, mais j'ai envie de transmettre. Maintenant que j'ai compris. Pourquoi moi-même, avec mes enfants, j'ai fait des erreurs. Et quand j'ai formé des parents à la relation à l'enfant, aux relations en famille, je m'appuie sur mes erreurs, je m'appuie sur mon histoire en disant, voilà, moi j'ai fait ça, maintenant que je sais, si vous l'apprenez tôt, ça va permettre de vivre autrement dans la famille que ce que nous, on a essayé de mettre en place. J'ai aussi cette soif de transmission. Pour moi, je ne peux pas garder pour moi quelque chose que j'ai découvert et qui peut être utile aux autres.
Et c'est quelque chose qui vous fait vibrer, ça.
Ah bah ouais, tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Il me semble que vous participez à une action au centre socioculturel de Chemillé pour aller vers les personnes.
Alors, je l'ai fait moins maintenant, enfin depuis quelques mois, beaucoup moins. Parce que, ben voilà, dans ma vie, je vous ai dit que j'avais accompagné mon père en fin de vie. J'ai aussi accompagné mon frère en fin de vie, jusqu'au bout et accueilli à la maison. J'ai aussi, là, accompagné une tante en fin de vie. Et là, ça fait 6 mois hein, qu'on est un peu là-dessus et à gérer les suites de son décès. Donc, c'est vrai que là, je suis beaucoup moins engagée au niveau du centre social. Je l'ai été, oui, j'avais beaucoup de plaisir, et notamment accompagner les équipes, à mettre du sens sur ce qu'on fait. En fait, ma quête, elle est là aussi. C'est-à-dire, j'agis, mais pourquoi j'agis ? Et est-ce que je suis en accord avec mes valeurs, d'une part ? Et autre chose, est-ce que je suis en paix quand j'agis comme ça ? Donc derrière, je vais aller travailler. Qu'est-ce qui me permet d'être en paix pour pouvoir agir comme ça ? Quelles sont mes valeurs ? Et comment j'ai envie d'être en lien avec ça ? Et si je ne suis pas en lien, comment j'agis ? Qu'est-ce que je dis ? Ou qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'acte ? Qui montre que non, je ne suis pas en accord avec ça, je ne peux pas poursuivre.
Et vous avez parlé d'engagement, mais pour vous, personnellement, qu'est-ce que c'est l'engagement, finalement ?
Je crois que l'engagement, c'est aller au bout de ce à quoi on croit et d'avoir envie de le faire avec d'autres, ou pour d'autres, beaucoup avec d'autres. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est que personne ne détient de vérité, et que c'est ensemble qu'on trouve des solutions, c'est ensemble qu'on trouve un chemin vers quelque chose qui pourrait s'appeler une vérité, c'est même pas une vérité, mais vers du sens. Donc je crois beaucoup, beaucoup au travail ensemble. Et même quand j'ai accompagné des personnes, même quand j'ai travaillé avec des équipes, moi j'avais pas grand-chose à amener, j'avais juste à permettre que les choses se disent, que les prises de conscience se fassent et que chacun puisse exprimer ce qui est important pour lui. Et maintenant, comment on fait ensemble ? Et ça reste quelque chose de fort, même un engagement associatif ou un engagement même en familial. Avec mes petits-enfants, par exemple.
Et dans notre société aujourd'hui qui devient individualisée, comment est-ce que vous vous sentez, vous, là-dedans ? Parce qu'à votre échelle, vous essayez de comprendre le sens de tout ça. Est-ce que pour vous, c'est important aussi de faire comprendre aux personnes que tout ça, ça a un sens et c'est aussi ce que vous cherchez à véhiculer ?
Je vais toujours chercher... Je pense que c'est... Ouais, ça, c'est naturel. C'est-à-dire que je sois n'importe où, dans n'importe quel groupe, je vais chercher à aller à la rencontre de la personne, bien au-delà de ce qu'elle agit. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, on a la chance sur le secteur d'avoir un réseau très, très riche, de par le centre social, entre autres, hein, mais de gens qui sont engagés, qui ont des valeurs, etc. Et en même temps, c'est aussi important pour moi de sortir de ce lieu qui est un peu cocon, où on est un peu dans l'entre-soi, donc d'aller voir dans d'autres domaines. Et d'amener aussi cette exigence de la qualité de la relation, de l'authenticité et du sens de pourquoi on fait les choses comme ça.
Est-ce que c'est ça qui vous a poussé aussi à apprendre la communication non violente dont vous parliez tout à l'heure ?
C'est-à-dire que je suis allée chercher des outils. À partir du moment où j'ai compris un peu, je suis allée chercher des outils pour être efficace. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien, on constate, ok, d'accord, on peut apprendre de la théorie, mais sur le terrain, il se passe quoi ? Parce que sur le terrain, je peux m'engueuler autant avec mon voisin que, voilà, hein, qu'avec quelqu'un de la famille, etc. Et je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et je sais que l'autre, ce n'est pas ça qu'il a envie de vivre non plus. Donc, par des outils, il y en a plein. J'ai eu la chance de faire des formations dans les relations humaines, parce que même la formation de directeur d'établissement, même la formation, j'ai fait un DU sur les relations humaines, même infirmière, même prof des écoles, partout on est sur les relations humaines. Donc partout on cherche des outils pour que ça fonctionne ensemble. Sauf qu'en fait, je me suis fait une boîte à outils, mais j'ai surtout créé à partir de ce que je suis. Ça veut dire que même si, je disais à la fin, je peux arriver dans n'importe quel groupe, de toute façon, on va se parler, de toute façon, on va se comprendre, de toute façon, on va co-créer ensemble. Mais je n'ai plus besoin de me raccrocher à un outil. C'est une façon d'être, en fait. C'est une façon d'être à l'écoute, c'est une façon de permettre que les gens s'expriment et s'écoutent, et de ça en faire quelque chose.
Donc c'est des mécanismes que vous avez vraiment intégrés, qui font entièrement partie de vous aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Et ça, je pense que c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui montre que vous avez des valeurs. On va faire une petite transition musicale dans notre podcast. On va écouter The Rocking Song de Asaf Avidan et The Mojos. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
Alors comme je vous l'avais dit, on vient d'écouter Rocking Song. C'est une superbe musique qui personnellement me fait vibrer et qui parle notamment de la transmission et des relations humaines. Donc c'est complètement dans le thème des engagés. Et pendant la musique, on parlait de la légitimité. Et je reprends vos mots tout à l'heure. On fait tous des erreurs et vous avez fait des erreurs dans l'éducation de vos enfants. Comment est-ce que vous vous sentez légitime à aider les gens et à travailler sur les relations humaines ?
Eh bien, encore plus quand on fait des erreurs. Parce que l'erreur, c'est vraiment le lieu où on peut apprendre. Après, je suis ennuyée par rapport à mes enfants, parce que je n'ai pas été à la hauteur de ce que j'imaginais. Donc, bien sûr, ado, je m'en suis pris plein la figure, on s'en est pris plein la figure, même jeune adulte. On a eu des retours, alors justifiés, pas justifiés. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont entre 34 et 40 ans. Et vraiment, on a une belle relation d'adulte. Autant nous dans, j'ai envie de dire, l'écoute, le soutien pour chacun d'eux, qui sont très très différents, et autant eux vis-à-vis de nous, et l'attention qu'ils peuvent avoir pour nous. Et moi, c'est ça qui a du sens et qui est important. Donc les erreurs, elles m'ont permis de m'appuyer dessus pour dire, voilà, moi j'ai fait ça, mais c'était... J'ai bien vu ce que ça a produit chez mes enfants. Donc quand on a créé avec une collègue des ateliers parentalité et qui s'installaient sur la durée pour que les gens puissent tranquillement mettre en place des choses, observer et se remettre en cause en se formant pour pouvoir agir autrement. J'étais plus crédible parce que ce n'est pas un savoir appliquer ça, c'est écrit dans le bouquin. C'est moi, j'ai fait ça, voilà ce que ça a produit. Si vous savez ça, peut-être que vous allez faire différemment et que vous éviterez des choses. Après, on en fait tous des erreurs en tant que parents, mais il y a peut-être des choses que vous pourrez éviter. Et notamment, d'amener vraiment l'écoute et la construction d'une relation de confiance. Ça, c'est hyper important.
C'est ce qui est central pour vous dans la relation ?
Oui, la confiance, complètement. C'est toujours ce que j'ai mis en place, mais pareil, assez naturellement dans les équipes, parce que j'ai dirigé pas mal d'équipes différentes. Et la confiance, faire confiance aux personnes qui sont sur le terrain. Enfin, moi, ça a toujours été ça. C'était vous savez, dites-moi de quoi vous avez besoin. Ma mission à moi, c'est de vous donner les moyens de mettre en œuvre ce à quoi vous croyez. Donc cette confiance-là, Alors, c'est pas une confiance aveugle, ça veut dire qu'il y a des retours. Hein, une confiance, ça veut dire, voilà, même avec les salariés, c'était, venez me dire comment vous avez fait les choses. Puis d'abord, ça m'intéressait. Puis ça permettait de réajuster s'il y avait besoin. Mais ouais, c'est, je crois que la confiance, elle est nécessaire, elle est hyper importante. Et elle a besoin d'être nourrie, cette confiance.
Et tout à l'heure, vous parliez de vos valeurs, des valeurs qui sont importantes dans le champ du social en général. Quelles sont pour vous les valeurs, du coup, un peu essentielles pour exercer dans ces métiers-là ou dans cet engagement-là ?
Alors, des valeurs ou des façons d'être ? Moi, la première des choses, c'est de savoir observer, de savoir écouter. C'est vraiment la première des choses quand on veut travailler dans le monde du social ou de la santé ou de l'éducation. C'est quand j'observe, est-ce que j'observe et que je transforme ce que je vois ou ce que j'entends, ou est-ce que je suis en capacité vraiment d'accueillir ce que je vois et ce que j'entends sans le transformer. Et puis, de ne pas être dans du jugement. C'est-à-dire d'accueillir vraiment ce qui se passe, même si c'est très différent de moi, même si ça me choque à l'intérieur. Comment je vais accueillir l'autre dans ce qu'il vit ? Donc, l'écoute, l'observation et l'écoute. Et une écoute, voilà, une écoute qui ne juge pas, et une écoute qui va donner confiance à l'autre pour oser en dire plus, et pour oser parler de lui, même quand il a fait des erreurs. C'est-à-dire que, parce que moi, c'est ce que j'ai découvert, moi, dans ma vie, c'est que j'ai pu parler de mes erreurs quand j'ai expérimenté qu'avec certaines personnes, je n'allais pas être jugée, hein, comme et quelqu'un ayant mal fait. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a la confiance. Ça, c'est très clair. La confiance, comment on se fait confiance? Et puis, comment on sait qu'on est de la pâte humaine? Ça veut dire qu'on n'est pas des robots et que de toute façon, à des moments, il y aura des tensions. De toute façon, à des moments, on ne va pas se comprendre. De toute façon, à des moments, il y aura des luttes de pouvoir aussi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Ne pas être dans le déni, tout le monde, il est beau, on est équipé, on a les bons outils, ça va bien se passer. Non, à des moments, on ne va pas se comprendre. Donc, comment on va faire pour mieux se comprendre si on veut travailler ensemble ? Et ça, ça renvoie à chacun. Parce que chacun, on a des blessures. C'est-à-dire que la vie, notre éducation, la vie nous a amené des choses qui nous font peur et où on se protège. Et quand on est dans cette protection, eh bien, on peut devenir dans une attitude qui est inadaptée au fait de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on va être sur la défensive ou on va être sur le jugement. Et donc, ça oblige chacun à aller travailler ce que moi j'appelle maintenant sa paix intérieure. C'est-à-dire si je suis vraiment dérangée par des comportements, dérangée par des attitudes de certaines personnes, etc. Mais pourquoi ça me dérange comme ça ? Qu'est-ce que ça fait chez moi ? Et de quoi j'ai besoin, moi, pour pouvoir être en paix et pouvoir aller à la rencontre de cette personne ? Après, on ne peut pas faire avec tout le monde. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai mis de la distance avec certaines personnes parce que c'était important pour moi. Par exemple, des gens qui étaient dans... une forme de manipulation, une forme d'emprise ou une forme de défense, mais parce qu'eux n'étaient pas au clair. Voilà, moi j'avais cette sensation qu'ils n'étaient pas au clair, mais leur mode de relation au monde, c'était de la défense. C'était de l'attaque, de la défense, mais même sans, en perdant le sens. Je me suis éloignée de certaines personnes, en disant, moi je ne veux pas être avec ces gens-là, je ne veux pas travailler, et de développer autre chose à côté. Parce qu'à un moment, on a besoin de se protéger, et ça c'est vital. Donc il n'y a pas de honte à se protéger, par contre, il y a la nécessité d'être conscient de là où on est. Je suis en train de faire quoi là ? Je fuis ou je me protège ? Je me protège, ok. Donc ce n'est pas une fuite, parce que je vais aller voir ce que ça fait chez moi.
Ça nous laisse un peu sans voix d'entendre tout ça. Vous parliez de se protéger... Et tout à l'heure, du fait que vous travailliez beaucoup sur la résolution de conflits, est-ce que pour vous, il y a eu des périodes où c'était vraiment très difficile à vivre, vous, dans votre intimité ? Et est-ce que dans ces moments-là, vous avez des mécanismes de défense autres que de partir de cette situation pour se protéger ? Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner ?
Eh bien, moi, c'est de me faire accompagner. c'est-à-dire d'aller travailler avec quelqu'un qui va me superviser, c'est-à-dire qui va m'aider à comprendre ce qui se passe chez moi. Et ça, il n'y a jamais de honte à aller chercher de l'aide. C'est même une nécessité. Et c'est très éclairant. Et on gagne du temps. Parce que très vite, on est à nouveau en paix. Et à nouveau, on peut se mettre à l'écoute et accueillir. Même accueillir, j'ai envie de dire, quelque chose qui pourrait être très compliqué à accueillir.
Et puis quelque part, ça nous rappelle aussi que nous aussi, on est humains.
Complètement.
Et que même si on cherche à aider les autres, nous aussi, on peut avoir des fois besoin d'aide et accepter ça en soi. Je pense que ça peut aussi nous permettre de mieux aider les personnes.
Alors moi, j'ai démarré ma vie professionnelle en voulant aider les autres.
Ouais.
Et puis, le mot « aider » s'est transformé en « accompagner ». Et ce n'est pas la même chose.
Pour vous,
ça veut dire que je ne viens pas les sauver.
Ouais.
Ça veut dire que le boulot, ce n'est pas moi qui vais le faire. Par contre, je vais être là.
Ouais.
Et là, je vais proposer des choses qui peut-être peuvent les aider, mais c'est eux qui vont choisir. Et quand on est dans cette posture d'accompagnement, je trouve qu'on est bien plus efficace et bien plus respectueux.
Ouais. Est-ce que vous aviez aussi cette volonté de vous sentir utile et de contribuer ?
Oui, je crois que c'est important, mais...
C'était pas votre motivation première ?
Non.
Ouais.
Non. Non, j'ai besoin de transmettre, de mettre du sens, Mon plus beau cadeau, c'est quand des gens me disaient oh, « qu'est-ce que c'est plus agréable maintenant les relations en famille, par exemple ?» où on a pu partir en vacances ensemble, c'était inespéré. Ou même, je me souviens, on travaillait en maison d'arrêt, je passais 2 heures d'atelier avec les détenus, et un jour, il y en a un qui me dit, mais j'ai vécu 2 heures de liberté. De liberté dans une pièce fermée, avec des gardiens derrière, avec des barreaux partout. Mais moi, c'était un cadeau, quoi. Mmh. Et... liberté parce qu'il a eu liberté d'expression, en fait, et qu'il pouvait être entendu et oser faire aussi loin qu'il le voulait, dans un cadre très très défini. Parce que pour moi, par contre, il est très très important de poser un cadre. C'est dans un cadre clairement défini et adopté par tous que l'on peut être le plus libre. Dans tout groupe, quand on commence par poser un cadre de fonctionnement. De quoi chacun a besoin pour se sentir bien dans ce groupe-là, ou pour pouvoir oser dire des choses. Donc on pose ce cadre, on appelle ça les accords de groupe, on se met d'accord. Et une fois qu'on a posé ça, on se partage la responsabilité. On est tous responsables que ces accords fonctionnent. Ça veut dire si on a dit qu'on s'écoutait jusqu'au bout sans couper la parole, eh bien s'il y en a un qui ne le fait pas, tout un chacun du groupe peut dire « on a dit qu'on s'écoutait jusqu'au bout ». Et on peut rappeler le cadre. Mais quand ce cadre est posé, à l'intérieur, on a la liberté d'être, puisqu'on a un cadre qui sécurise tout le monde. Donc ça, c'est des choses que j'ai apprises au fil du temps. Ce n'est pas forcément quelque chose que je faisais au départ. Mais après, en finissant, c'était indispensable. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de confiance. Et donc, il n'y a pas de partage en authenticité.
Est-ce que vous diriez que vous avez été épanouie dans
Bah oui, ça m'a nourrie, épanouie. Moi, j'ai grandi. J'ai changé. J'ai démarré, j'étais très mal à l'aise dans les groupes, incapable de prendre la parole. C'est impressionnant maintenant quand je mesure ça. J'avais le cœur qui battait à fond, j'avais des choses à dire et je ne les disais pas. Enfin, j'étais vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout à l'aise pour s'exprimer et pour affirmer ce en quoi je croyais. Donc j'ai fait un chemin énorme. Enfin, moi, je remercie tous les gens que j'ai croisés. Et parce que vraiment, ça m'a permis d'évoluer et de m'épanouir pleinement. Ouais.
Et nous, on vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Est-ce que si vous deviez transmettre quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ?
Un, de ne pas rester seul. Et deux, d'aller s'équiper d'outils, quels qu'ils soient, on s'en fiche. Parce qu'il y en a plein. Après, il y en a qui vont parler de CNV, d'autres qui vont parler de... Je ne sais plus, enfin, il y en a plein, hein. Mais d'aller chercher des outils, de les expérimenter pour soi, et puis d'aller toujours en chercher d'autres pour trouver ce qui nous convient, mais de ne pas rester seul.
Merci beaucoup Marie-Odile.
Merci à vous.
Tomorrow is on selling day.
Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.